RS Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Metron et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE Radio-du-Bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Tanguy Détrose. Bonjour Tanguy.
Bonjour Billy.
Directeur adjoint de Metron, et vous nous recevez dans vos locaux. À vos côtés, c'est le tandem gagnant Jean-Christophe Gianezeni. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Vous êtes le directeur associé d'Ecodef. Alors, nous accueillons aujourd'hui, messieurs, Christian Nouel. Bonjour Christian.
Bonjour.
On va parler des avocats avec vous, hein, de la fonction d'avocat, mais on va également parler d'un programme que vous développez, d'un département de GIDE qui s'appelle le GIDE Impact. Et avec vous, on va comprendre comment la RSE, entre guillemets, peut s'introduire dans le métier d'avocat. Mais juste avant, si vous permettez, on va remonter un peu votre parcours. Alors, vous êtes né à Paris le 26 avril 1956. Première question, vous saviez quel jour c'était ce jour-là ?
Non.
C'était un jeudi.
Ah,
c'est une bonne information ça, elle est importante. On a rarement l'occasion de retrouver le jour précis de la semaine où on est né. C'était pour la blague. Comme vous n'aviez aucun métier en tête à l'époque, vous allez passer un bac D, sciences naturelles. Ce bac vous a mis sur quelle voie, vous qui n'aviez aucune perspective qui vous est rêvée comme métier ?
Non, je ne vais pas dire que j'avais aucune perspective, mais... D'abord, je passais un bac D parce que je trouvais ça intéressant de toucher à d'autres sujets, notamment les sciences et tout ça. C'est une occasion unique dans sa vie de toucher à cette question. D'ailleurs, j'avais un bac D, une épreuve formidable, puisque l'épreuve de mon bac était les testicules de rat. Donc, vous voyez, ça m'a quand même marqué pour ma vie entière, parce que dans le rôle d'avocat, c'est quelque chose dont on se sert beaucoup. Donc, après ça, si vous voulez, j'ai fait des études d'économie. Je suis passé par Dauphine et puis je suis rentré dans un cabinet d'audit. À l'époque, ça s'appelait Coopers & Lybrand. Et je suis rentré dans la partie fiscale et puis après, dans la partie audit. Et c'était très intéressant parce que, d'abord, c'était une époque, si vous voulez, où c'était une approche anglo-saxonne. Si vous voulez, aujourd'hui, pour entrer dans ce type de cabinet, il faut avoir fait Bac plus 18 et tout ça. Là, si vous voulez, on faisait plus confiance aux gens. Et puis, les structures étaient plus petites. Moi, quand je suis rentré chez Coopers & Lybrand, aujourd'hui, est PwC, il y avait peut-être 50, 60 personnes. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont. Bon, bref. Et donc, j'ai fait 3 ans d'audit. Et c'était l'audit et une période très intéressante. C'était l'introduction des normes internationales, des normes IFRS. Et donc, j'étais auditeur dans un grand groupe automobile, en l'occurrence le groupe PSA, qui passait d'une comptabilité, je dirais, française, en d'autres termes, à des normes anglo-saxonnes. Et évidemment, ce passage était intellectuellement très intéressant, puisqu'on voyait cette différence de monde et de conception, en fait, de l'économie selon l'application des normes. Voilà. Et puis après, je suis passé dans un service fiscal. Et après, voilà.
Et après, vous êtes parti du côté des avocats.
Et après, voilà, la fiscalité, j'avais fait beaucoup à travers le chiffre. Je trouvais ça intéressant de la faire à travers le droit. Et j'ai rejoint, effectivement, un cabinet, ce qu'on appelle de niche. Et ça, c'était très intéressant parce que je suis arrivé à une époque de la bulle Internet. Et donc, j'ai eu la chance d'accompagner toute cette population d'entrepreneurs et d'entreprises de croissance, à commencer par, à l'époque, une personnalité qui était emblématique, s'appelait Denis Père, qui avait créé une entreprise qui s'appelait Business Object, qui était la première entreprise française cotée au Nasdaq. Donc, j'ai eu la chance d'être avec mon associé Olivier Edouard, son conseil. Et ça a été très structurant parce qu'au-delà de ce nouveau modèle, je dirais, juridique et économique, on a créé une association qui s'appelait Croissance Plus pour accompagner les entreprises de croissance et entrepreneurs. Et donc là, j'ai beaucoup milité, le terme est... pour le prendre dans son terme exact... pour effectivement faire en sorte que les entreprises de croissance et entrepreneurs aient un cadre juridique et surtout fiscal adapté.
Alors, après Croissance Plus, ça c'est important, vous allez cofonder une fondation qui s'appelle Croissance Responsable. Elle est hébergée par l'Institut de France, donc comme mission d'intérêt général. Quel était le but et l'objectif quand vous avez fondé, cofondé
Croissance Plus? On n'était pas fondé tout seul, on était justement toute cette génération d'entrepreneurs. Il y avait Geoffroy Haute-Bézieux, il y avait Denis Père, il y avait d'autres entrepreneurs. Et c'était dit que, en fait, on avait passé un peu notre vie à quémander et à se battre sur du court terme. Et on trouvait quand même intéressant, alors aujourd'hui c'est complètement rentré dans le langage commun, de se poser la question de savoir quel est le rôle de l'entreprise dans la société. Croissance Plus avait toujours une idée du partage de la valeur, mais ce n'était pas suffisant, il fallait un peu plus loin. Et on a été très marqué par un économiste américain qui s'appelait Michael Porter, qui a été porteur, si je puis dire, de son jeu de mots, d'une théorie qui s'appelle la création de valeur partagée. Donc, il correspondait complètement aux thèses de Croissance Plus. Et on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse à la façon de mieux partager la valeur. Et ce n'est pas uniquement la valeur financière, c'est quel est justement le rôle, la place de l'entreprise dans la société. Alors, aujourd'hui, c'est complètement dans le langage commun. Ça l'a été un tout petit peu moins en 2007.
Alors, vous avez posé les premiers jalons de la loi Pacte?
Non, c'est un peu prétentieux de dire ça. Mais on a beaucoup travaillé sur la loi Pacte, oui, bien sûr. Beaucoup travaillé. Enfin, dans la loi Pacte, vous savez, dans la loi Pacte, il y a 170 articles, ou je ne sais pas combien. Enfin, oui. Il y a surtout 4 articles qui sont très importants, qui sont la modification d'un article du Code civil qui dit qu'une entreprise doit être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et en tout de son activité. Il y a l'introduction de la raison d'être. Donc ça, c'était des dispositions qui étaient prévues. Bon. Et puis après, il y a 2 dispositions qui sont passées par amendement, qui étaient très importantes, qui étaient la société à mission et le fonds de pérennité, le régime de fondation actionnaire. Donc oui, ça, sur ces 2 sujets-là, on a fait en sorte que ça sorte, que ces dispositions soient adoptées.
C'est bien, vous avez poussé comme il fallait. Allez, Jean-Christophe et Tanguy, vos questions. Jean-Christophe.
Bonjour Christian.
Bonjour.
C'est extrêmement intéressant d'avoir votre recul justement par rapport à tout ça. On parle beaucoup aujourd'hui justement de transparence, de reporting, même si c'est quelque chose qui est assez ancien. Tout s'accélère justement avec la réglementation européenne et la taxonomie verte. Aujourd'hui, comment est-ce que vous avez vécu justement cette transition d'obligation de reporting et de transparence des entreprises par rapport à ce que c'était avant, ce que c'est devenu aujourd'hui et ce que ça va être demain?
Je vais répondre à votre question, mais en préambule, si vous voulez, ce qui est... Puisque moi, j'ai connu ces 2 révolutions, en quelque sorte, la révolution de l'Internet et la révolution d'aujourd'hui. C'est la révolution de l'Internet, le droit a couru derrière et continue à courir derrière. Là, la révolution qu'on vit en ce moment, elle est guidée par le droit. C'est-à-dire, c'est toute la loi incite, et voire oblige l'entreprise à rentrer dans ce tube. Les directives, les lois en France, les règlements et la soft law, c'est incroyablement structurant pour une entreprise. C'est un mouvement d'accompagnement. Donc effectivement, alors dans ce mouvement d'accompagnement, voire d'obligation, il y a des obligations de reporting de transparence, il y a la taxonomie, il y a le règlement disclosure CFDR, et puis il y a Avenir, là qui est l'événement, à mon avis, le plus significatif pour l'entreprise, qui est la directive sur la communication des performances de durabilité, la directive Corporate Sustainability Directive, qui va être, à mon avis, un big bang pour les entreprises, puisque là, on va leur demander de communiquer sur leurs performances de durabilité avec des nouveaux concepts, concepts dits de double matérialité, c'est-à-dire que c'est non seulement comment je gère le risque environnemental, par exemple, sur mon activité, mais quelles sont les conséquences qu'engendre mon activité sur mon écosystème. Donc, bon. Et ça, ce sont des sujets qui vont être extrêmement structurants pour l'entreprise et qui vont agréger justement la taxonomie et tout ça. Alors, comment les entreprises le vivent? Elles le vivent un peu comme une punition, on ne va pas se mentir, parce que c'est extraordinairement complexe, beaucoup trop complexe. On parle de la taxonomie, ils ont créé un système qui est d'une complexité inouïe. Et on peut même se poser la question de savoir si la taxonomie va résister à sa complexité. Bon. Les choses sont là. Hein, et en tant qu'avocat, si vous voulez, c'est assez compliqué parce que soit vous passez pour le dentiste en disant bon voilà, soit vous dites attendez, on peut quand même faire quelque chose de ça. On peut derrière, si vous voulez, on peut créer de la valeur, on peut créer quelque chose de positif. Donc il ne faut pas le voir comme étant une contrainte. Il faut également le voir sous un autre angle. Et voilà, nous on essaye quand même de dans ce cadre extraordinairement complexe, évolutif, d'essayer de faire sortir le positif par rapport au côté dentiste et négatif.
Et vous pensez que ces contraintes à l'échelle de l'Union européenne peuvent, à un moment donné, dégrader la performance économique des entreprises dans le cadre d'une performance mondiale ?
Alors non, là, je ne crois pas. Là, je pense que d'abord, l'Europe a une chance formidable de reprendre en quelque sorte sa souveraineté sur tous ces sujets. Qu'elle a quand même un peu perdu. L'Europe s'y attelle. Les financements vont vers l'entreprise et une économie responsable. Ça, c'est... Et pour attirer les financements, ben, il faut quand même avoir le régime et la réglementation qui lui convient. Donc non, moi, au contraire, je pense que ce que fait l'Europe va au contraire dans le bon sens et n'est pas nuisible à son économie. Non, pas du tout. Non. Ce qui peut être nuisible au sein de l'Union européenne, c'est des pays qui décident de surtransposer des directives, ce qui est un peu une maladie française. Mais bon, ça... Vous savez quel est le coût de la surtransposition sur le PIB français ? 1,5 point. Voilà. Donc, tu vois, il y en a qui sont plus malins que nous.
Ouais, plus malins. Tanguy ?
Mais j'allais poser un peu la même question. Du coup, je suis un peu pris de court. C'était effectivement l'impact de la surréglementation européenne par rapport à d'autres régions du monde, surtout dans des marchés globalisés. Pour vos clients, les grandes entreprises qui sont présentes justement dans différentes parties du monde, Vous venez de dire, l'Europe, je vois ça comme une opportunité quelque part par rapport aux entreprises ou à cette volonté de rentrer dans un mode plus vertueux. Est-ce qu'au sein d'une même entreprise qui a une activité mondiale, on se retrouve du coup avec deux vitesses différentes ou bien on dit non, si l'Europe l'impose et on sait que ça va partir par là, soyons précurseurs dans les autres régions du monde ?
Alors, d'abord, j'ai dit, on n'a pas que les grandes entreprises, on a également des PME et des ETI. Mais je pense que oui, dans certains secteurs, secteur de l'agroalimentaire, par exemple, ou de la santé, si vous voulez, la politique ESG RSE n'est pas une politique commune groupe. C'est chaque région du monde a sa particularité, chaque produit a sa particularité. Et vous avez des missions ou des engagements, pour une mission, société mission, qui sont quand même propres aux produits à la région du monde. De toute façon, je vais vous dire, le consommateur, si vous êtes dans du B2C, le consommateur a la même réaction un peu partout dans le monde par rapport à l'entreprise. Donc, si vous voulez, c'est une tendance de fond. Il ne faut pas croire qu'il y a des régions du monde qui sont plus en retard que d'autres. C'est une tendance de fond. Ils sont plus en retard peut-être sur la réglementation, mais sur la marche, non. Moi, je crois que c'est un... Après, si vous voulez, vous avez des pays, c'est les États-Unis. Si vous voulez, la grande affaire du moment, si je puis dire, c'est justement autour de l'information extra-financière. Parce que moi, je crois que ça, c'est vraiment ce qui va compter. Demain, on évaluera une entreprise, je pense, hein, je suis convaincu, par rapport à ses performances ESG. Mmh. Bon, et là, si vous voulez, vous avez soit un modèle européen, qui est un modèle très responsable, soit un modèle, je dirais anglo-saxon, l'analyse par les risques et qui laissera tomber ce principe dit de double matérialité, c'est-à-dire qu'on s'en foutra de savoir l'impact. Or, si vous voulez, vous ne pouvez pas être une entreprise responsable sans prendre en considération votre activité par rapport à votre environnement. Donc, je pense que l'Europe va gagner là-dessus, mais si vous voulez, c'est un travail de titan.
Alors, Jean-Christophe et Tanguy, pour terminer, je voudrais vous signaler que Christian est un fan de football, on en a parlé, mais vous vouliez dire un mot sur la Coupe du monde de foot au Qatar.
Vous m'avez dit, j'aimerais bien... Alors, j'aime bien le foot, mais j'aime beaucoup le rugby aussi et d'autres sports.
Mais le Qatar, ça vous tenait à cœur. Alors, je vous laisse une minute, pas plus, parce qu'on est presque à la bourre.
Le Qatar, ce que dit dans la presse, c'est 6500 morts d'accidents du travail, c'est des conditions environnementales absolument désastreuses. Et on voit cette petite musique monter en ce moment. Vous avez des journaux qui vont décider de ne pas couvrir la Coupe du Monde. Vous avez quand même l'Italie qui a décidé de ne pas aller au Qatar. Moi, je pense que vous allez avoir, dans les semaines qui vont suivre cette Coupe du Monde, un mouvement assez bien orchestré qui va cibler un certain nombre de choses. Je prends un parallèle, mais c'est très intéressant de voir la force du média. Je ne vais pas citer le nom de ces entreprises, vous le savez tous, c'est une entreprise dans le domaine du textile. Bon, ils se sont, semble-t-il, fournis, acheter du coton auprès des Ouïghours. Bon, ils fournissent 20% de la population du coton mondial. Très compliqué de tracer le coton. Bon, enfin, toujours est-il, nous avons tous certainement sur nos vêtements un peu de coton Ouïghours. Les dirigeants de toutes ces entreprises sont en ce moment accusés de recel de crimes contre l'humanité. Voilà. Bon, donc évidemment, ça fait la une de la presse économique et tout ça. Moi, je veux bien parier avec vous que dans la Coupe du Monde du Qatar, il va y avoir un truc comme ça. Parce qu'ils ne vont pas laisser passer les 6500 morts.
Eh bien, on prend les paris. En tous les cas, on vous avait promis de vous donner la parole sur ce sujet et vous avez bien fait de donner votre opinion. Merci beaucoup, Christian. Merci également à Tanguy et Jean-Christophe. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.
L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Nitron et le groupe EPSA.